jour avec le père Willem.
Recevoir l'inconnu. Parti de Venise. En 1271, Marco Polo, son père Niccolo et son oncle Matteo arrivent en Perse, une des étapes de leur voyage de 4 années. Leur but est d'aller rencontrer l'homme le plus puissant du monde. C'est l'empereur mongol Kublai Khan qui a soumis la Chine. Dans la ville de Savé, à une centaine de kilomètres de Téhéran, on leur montre les 3 sépultures des rois mages. Ils ne sont guère surpris de constater que les corps étaient encore tout entiers et ont cheveux et barbe comme lorsqu'ils étaient vivants. Mais au village des adorateurs du feu, très probablement des Zoroastriens, les adorateurs de Zoroastre, les habitants leur racontent que jadis, 3 rois de ce pays étaient allés adorer un prophète qui était né au pays des Juifs. Arrivé là où était né le prophète, le plus jeune des rois entra seul pour honorer l'enfant. À son grand étonnement, il constate qu'il a le même âge que lui. Le second, d'âge moyen, entre également seul et affirme avoir vu une personne de son âge. Ainsi, du troisième, qui était de grand âge, est ressort pensif d'avoir vu un homme comme lui. Alors que faire ? Ils décident d'entrer ensemble pour constater que l'enfant n'a que 13 jours. Insensible à cette précieuse leçon, Marco Polo reprend la route sans en rien tirer. Prompt à s'émerveiller des richesses de la Chine, où il restera 16 années, il relate d'autres épisodes d'une signification élevée qu'il ne perçoit pas. Ainsi, de l'éventuelle existence du roi prêtre Jean, dont il ne décèle que l'utilité militaire pour prendre à revers les Sarrasins qui menacent les états des croisés au Levant. Ainsi, aux confins de la Perse, se trouve-t-il, du moins il le croit, devant l'arbre seul, ou plutôt l'arbre sec, qui, selon le rêve de Nabuchodonosor dans le livre de Daniel, a enrichi l'univers médiéval. Lié à la question du salut et la frontière entre la réalité terrestre et l'au-delà, l'arbre nous enseigne les limites à ne pas dépasser, tant sur le plan physique que sur celui de la morale. On espère un sens du symbole, une élévation. On lit la description d'une sorte de platane très grand et très gros, dont les feuilles sont vertes d'un côté et blanches de l'autre. Nulle intention de dénigrer Marco Polo, qui s'est montré aussi courageux que loyal et dont le récit est une mine pour la connaissance économique et militaire de la Chine du XIIIe siècle, mais les exemples ci-dessus, parmi d'autres, prouvent que l'altérité se dévoile si elle peut entrer en écho avec l'état de notre être. Sommes-nous tous aveugles devant une partie du réel ? Ne pourrait-on voir que ce qui est déjà inscrit en nous, comment sortir du despotisme de la subjectivité ? Chaque découverte d'une nouvelle culture nous incite à laisser derrière nous des pans entiers de nos habitudes mentales, exigeantes, assaises vers une forme de vacuité certes impossible à rejoindre sans miasme, mais dont la méditation nous permet de croire possible une approche. La question est donc, avec qui et quoi voyage-t-on si le « je ne sais plus rien » est une illusion ? Devant l'ineffaçable palimpseste, reste à essayer de marcher vers le temple inconnu avec l'étonnement joyeux de l'enfant ou l'imagination créatrice propre aux artistes et aux savants. La confiance est la notion centrale de tout enseignement authentiquement spirituel. Étrangement, ce phénomène ne saute pas aux yeux. Nous confondons souvent le spirituel et ce qui relève de la psychologie et pensons que l'enjeu est d'apprendre à avoir confiance en soi ou en l'autre. Mais en réalité, quelqu'un qui a confiance n'a nullement confiance en lui-même. Il est plutôt ouvert à ce qui est, à ce qu'il appelle. C'est tout à fait différent. Prenons l'exemple de Matisse. Il n'avait pas confiance en lui, mais en ce qui, dans la peinture, le dirigeait, l'orientait, l'animait, un souffle. Cette radicalité de la confiance explique que les approches psychologiques ou sociales, si elles peuvent nous éclairer sur certains aspects de l'expérience du manque de confiance en soi ou sur les phénomènes qui la suscitent, ne savent pas aller suffisamment au cœur du problème pour nous éclairer réellement. Notre manque de confiance ne devient pas en priorité d'un problème lié à notre éducation ou à notre environnement social, mais au fait que nous soyons des êtres humains. C'est en revenant au cœur de notre propre humanité, et seulement par là, que nous atteindrons la confiance. C'est pourquoi nous croyons que le sens même de la pratique de la méditation est de nous aider à entrer dans la confiance. En réalité, on ne peut pas faire confiance à quelque chose. Je peux bien sûr faire confiance à cet ami, à cette situation, à ce métier, mais il y a toujours des déceptions possibles, des trahisons, des crises. De cette vérité, on peut tirer deux conséquences. La première, c'est que l'on ne peut faire pleinement confiance qu'à la vie même, au silence, à la présence, à ce qui ne se saisit pas et ne se comprend pas. La confiance est sans pourquoi. La deuxième conséquence, c'est que toute confiance repose sur l'acceptation d'un état de fragilité qui est le socle même de la nature humaine. C'est l'incroyable paradoxe de la confiance. Elle grandit et s'affirme si j'accepte que rien ne pourra jamais me la garantir, si j'admets la vulnérabilité de mon existence et la fragilité du monde. La méditation est un acte radical qui déplace tout et change entièrement le champ du réel. D'abord et avant tout, parce qu'elle nous place dans la confiance sans condition, sans explication. C'est là sans doute l'aspect le plus bénéfique, qu'il ne s'agira pas de dire que la méditation pourrait nous donner confiance, comme elle pourrait nous donner de la joie, du courage, de la tendresse, mais d'offrir, disons, voilà, ce qui est précisément à la racine de tout ce qui précède. La confiance est le cœur trop souvent oublié et pourtant si bienfaisant de la pratique de la méditation. Il importe de vivre cette confiance, cette méditation dans le courage du quotidien. Puissions-nous, à travers toutes ces réflexions, progresser dans notre quête de l'invisible et rejoindre ainsi ces milliers de croyantes qui, à travers le monde, à travers les actes quotidiens, transforment ce monde par des actes qui sont portés par des méditations qui les rendent en communion à travers la diversité des croyances, en communion profonde les uns avec les autres. C'est ça l'humanité d'aujourd'hui. Cette humanité qui garde l'avenir et non pas le passé, comme certains se plaisent, comme l'ont fait certains ces jours-ci, en s'enlisant dans le passé qui n'apporte rien pour l'humanité de notre temps.
Thank you.